y faire entendre sa voix dans son lieu aujourd'hui en tant qu'artiste Françoise.
Ah bah oui, évidemment. Double titre, hein, c'est mon métier.
Dans l'engagement de la société, parce que voilà, moi je trouve que c'est on fait de la danse hip-hop, ouais, même on fait
et
du
donc,
hip-hop.
Du coup, je suis en train de mettre en place, c'est pas une révélation ce que je vais vous dire, mais c'est un nouveau projet qui est un projet de solo à deux qui va faire état de la question de la transmission.
Principal de notre compagnie, c'est des spectacles engagés et de, au moins de, d'éveiller les consciences. Voilà,
merci Fred. Et puis alors. Il y a un vrai parti pris en tout cas. Ouais. Un vrai positionnement.
Il y a quelques années encore.
Ça, c'est ma réflexion, puisqu'on est dans une conversation aussi avec le hip-hop, de la scène notamment chorégraphique française. Et il y a quelques années.
Oui, très bien. Tout à fait. Et pour citer un autre Frédéric.
Il y en a.
Il me semble que nous sommes contemporains.
Nous sommes une culture contemporaine. Ouais. Une culture contemporaine qui peut être aussi imprégnée par des...
Et de me mettre en difficulté, comme je l'ai toujours fait dans mon travail de création.
Exactement. En fait, documenter autrement. Parce que déjà, en tant que chorégraphe, ton travail, ta création documente déjà. Elle documente sur le monde, sur les questions qu'on se pose, sur le monde, notre rapport au monde, à la société. Une autre façon de documenter aussi. Non.
Oui, et puis, moi j'aime bien l'expression qui dit il y a l'histoire qui appartient aux dominants, et il y a les mémoires qui témoignent de certaines réalités qui ne sont pas véhiculées dans les médias principaux.
Ah, d'accord.
Une société sans culture, c'est impossible.
Bonjour à tous et à toutes, et bienvenue à ce podcast à la bonne heure, Conversation avec le hip-hop, dédié à toutes celles et ceux ayant un lien de près ou de loin avec la culture hip-hop. Culture dans laquelle on épuise matière à penser et à créer. Beaucoup d'entre vous le savent, et pour celles et ceux qui ne le savent pas, le hip-hop est né à New York dans un contexte social violent. C'est celui du sud du Bronx, appelé aussi le Petit Vietnam, à cause des incendies criminels commandités par les propriétaires de ces immeubles, dans l'objectif de toucher l'argent des assurances. Les familles pauvres qui vivaient dans ces immeubles, pour une grande majorité, étaient issues des communautés latino et afro-américaines. Elles ont en commun l'histoire d'une population déportée d'Afrique qui s'est constituée en communauté africaine-américaine, et celle d'une longue migration venant de la Caraïbe, que ce soit Puerto Rico, Cuba ou encore de la Jamaïque. Certaines même des Antilles françaises. Ce n'est pas par hasard si la culture hip-hop a d'abord touché en France les populations liées à l'histoire de l'immigration et notamment celle des anciennes colonies françaises reléguées dans les quartiers populaires, éloignées des grands centres urbains. Mais aussi celles ayant fui des régimes d'oppression, des populations persécutées et s'étant exilées en France, elles-mêmes constituées en communauté. Quand je parle de communauté, je ne parle pas de communautarisme, de phénomène de repli identitaire et culturel, de ghettoisation culturelle, mais de ce qui lie culturellement les individus au pays d'origine. Eh bien, c'est-à-dire une langue, des danses, des musiques, des récits, de ce qui constitue aussi un patrimoine mémoriel à transmettre, des traces mémoire qui se transmet de génération en génération. Mes invités appartiennent à une mémoire et génération de danseurs hip-hop, une communauté culturelle que l'on ne découvre plus aujourd'hui et qui les lie par-delà leurs différences. Parce que ouais, ces différences dont le hip-hop puise sa force, sa vitalité, produisant de la culture alternative et fabriquant aussi de la mémoire commune dans des villes telles que Tarare dont ils sont originaires. Une histoire de danse dans des histoires de vie, une histoire de ville. J'ai donc le plaisir de recevoir Lanli Tao et Aïda Lazefar en conversation avec le hip-hop, et c'est maintenant. All the wheels are still, he is. Bienvenue Lanli, Aïda, au micro des AVR. Vous allez bien ?
Merci, ça va. Merci.
Parfait.
Eh bien, Lanly, Haïdar, ça me fait vraiment très plaisir de vous recevoir parce que vous faites partie de ceux qui ont contribué au récit justement d'une histoire de danse à Tarare et qu'il est important de faire connaître au plus grand nombre. Haïdar, nous nous sommes déjà rencontrés dans cette optique, c'était en 2020 ou 2021 il me semble, dans le cadre d'un court-métrage documentaire que je produisais avec Sophie Richaud et réalisé par Vincent Nouclin. Un court-métrage qui nous documentait sur cette histoire de danse hip-hop à Tarare grâce à ton témoignage et celui d'autres danseurs originaires également de Tarare. Ce court-métrage s'intitule « Mémoire urbaine » et nous l'avons programmé à l'époque au cinéma Jacques Perrin de Tarare dans le cadre de notre événement dédié au hip-hop et sous l'intitulé « Hip-hop, naissance d'une émancipation ». Tout comme le public qui a assisté à cette projection, moi j'en garde un très bon souvenir, mais aussi la frustration de ne pas avoir eu les moyens nécessaires pour poursuivre ce projet en allant encore plus au fond des choses et des rencontres. Mais voilà, comme quoi, lorsque les planètes s'alignent, eh ben la rencontre continue avec un des absents de ce documentaire, Lanly, mais aujourd'hui présent à travers un autre média, celui de la radio. Ben, c'est juste génial, la boucle est presque bouclée, non ?
Parfait.
Alors, nous allons revenir sur, sur cette histoire commune et tararienne, puis sur un événement aussi à venir autour du hip-hop, mais pas seulement. Mais avant, on va poursuivre la présentation, d'abord avec toi, Lanly, si tu le veux bien.
Pas de souci.
Né à Tarare en 1984, date à laquelle apparaît sur les écrans de télé la première émission hip-hop, HIP-HOP, animée par Sidney, tu es né, dira-t-on, à l'âge d'or du hip-hop, qui du reste influencera ton choix. C'est aussi l'année d'une mobilisation politique en France, dont Convergence pour l'égalité, qui succédera à celle, un an plus tôt, celle de la marche de 83 pour l'égalité contre le racisme. Deux événements historiques qui ne sont pas sans relation à celui du mouvement hip-hop et qui sera d'ailleurs aussi une de ses bandes-son. Double culture, française, mais aussi parce que tes parents sont originaires d'Asie, et plus particulièrement du peuple Hmong, ethnie originaire du sud de la Chine, au nord du Vietnam et du Laos. Tes parents sont arrivés en France au cours des années 70. Première vague de réfugiés politiques Hmong. Une diaspora importante qui a émigré dans les quatre coins du globe. Je cite, aux États-Unis, en Australie, Nouvelle-Zélande, Canada, en Allemagne, Japon, en Argentine, puis en France, tout comme en Guyane française. Une diaspora née d'un passé récent et douloureux, lié à la guerre d'Indochine, fuyant le régime communiste du Laos. Celui-ci les accusant d'avoir collaboré avec les colons français durant la guerre d'Indochine, puis les Américains. Une histoire d'exil forcé au destin, d'ailleurs proche, des Harkis venus d'Algérie. Je pense qu'il est nécessaire de rappeler le contexte historique, géopolitique, qui a poussé toute une population à l'exil, afin de préserver non seulement sa liberté, mais aussi son identité culturelle. Lanly, est-ce que je me trompe si je dis que le mot « Hmong » est aussi synonyme de « liberté » ?
Oui,
c'est vrai. Il est aussi synonyme de liberté. Alors, est-ce que dans la présentation, dans ta présentation, on peut rajouter des choses ?
On peut déjà rajouter que cette année, c'est les 50 ans de l'Exode, quand même.
C'est les 50 ans de l'Exode.
Voilà, aussi, il y a aussi une date à retenir.
Ouais.
J'en profite.
Oui.
Pour le 24 mai, sur Rio La Pape, on participe justement à un événement pour les 50 ans de l'Exode des Hmongs. Voilà, donc pour ceux qui seront intéressés,
bien sûr,
vous êtes les bienvenus.
Tu as grandi à Tarare. Tu as grandi à Tarare.
Et j'y suis né à Tarare.
Voilà. Tu es né à Tarare, oui, et tu as grandi à Tarare. Oui. Et dans quel quartier de Tarare ?
J'ai fait mes premiers pas à La Plata. La Plata qui n'existe malheureusement
plus aujourd'hui. L'ensemble des immeubles là, ouais. Ouais, qui n'existe plus, oui, qui a été détruit il n'y a pas longtemps en fait.
C'est ça. Et ensuite, vers mes 9 ans, 10 ans, mes parents ont déménagé à La Plaine, au quartier de La Chapelle.
Et est-ce une question, est-ce que la communauté Hmong, là, ici basée à Tarare, était justement basée dans un quartier particulier de Tarare, dont La Plata, ou bien répandue dans d'autres quartiers ?
On était à peu près dans tous les quartiers de Tarare, quasiment. À La Plaine, à La Plata, au Viaduc, Route de Tizi, Valson, partout.
Oui, pas dans un seul quartier.
Aïda aussi, il nous connaît très bien.
oui, j'en ai fait partie.
Et là maintenant, en ce moment, tu viens encore à Tarare ?
Non, j'habite dans l'Isère maintenant.
Tu habites dans l'Isère ?
Donc, je suis parti faire ma propre vie avec ma femme et mes enfants. Mais je ne regrette pas Tarare parce que justement, j'y participe associativement en tant que vice-président à l'association Hmong Rhône-Alpes.
D'accord, et basée à Tarare aussi, cette association qui est basée aussi à Tarare. Et alors de la danse, tu n'en vis pas. Tu n'as pas choisi tu n'as pas fait le choix de la professionnalisation de la danse. Tu as resté un amateur, mais passionné au sens du terme de la danse. Et j'imagine, comme tu viens de le dire, tu as un enfant, que bah, tu dois bien lui transmettre cette passion.
Oui, 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 mais à mes deux enfants, je leur ai bien transmis. Je ne les ai pas forcés du tout. Hein. En fait, c'est un jour, en tant que père, j'ai voulu leur proposer, comment dire, leur demander ce qui leur plairait dans leur vie. Ouais. Quel loisir, quel sport. Donc, ils ont essayé foot, sport de combat. Et je leur ai montré le breakdance. Je leur ai fait des figures, de la couple. Et ils ont kiffé, quoi.
Ah, t'as commencé très haut avec la couple, ouais. Oui, ben, faut bien.
Ça les a fait briller les yeux, quoi. Donc, forcément, ils ont kiffé. Et aujourd'hui, ben, ils sont toujours dedans. 18 ans et 20 ans. Et ils continuent à briquer. Donc, je peux dire que je peux être fier de moi. J'ai ma relève.
T'as ta relève. C'est bien, c'est bon, c'est très très bon. Aïdar, attends. Aïdar, à toi. Aïdar, tu es né en 1981, là aussi, hein, tu me reprends si je faute. Tu es né en 1981 à Rouen, et est-ce que tu as grandi à Tarare ?
Oui.
Ah, tu as bien grandi à Tarare, hein, oui, d'accord. Et toi aussi, de double culture, car ton père est algérien et ta mère franco-algérienne, car française d'identité sous l'Algérie française.
Exact.
Et tous deux sont installés à Tarare en 1965.
À peu près, environ. Je n'ai pas les dates exactes, ni les contextes, ni historiquement parlant, on en a vaguement parlé. Mais c'est à peu près ça.
C'est à peu près ça.
Enfin, ma mère était algérienne sous l'identité française.
Ouais.
Et voilà, c'était à peu près tout le monde comme ça, mais elle arrivait ici avec l'identité française.
La diaspora algérienne, ben, elle aussi, elle est très répandue dans le monde. Espagne, Canada, Italie, Royaume-Uni, États-Unis. Mais c'est en France qu'elle est la plus importante. Tu vis toujours à Tarare, comme tu l'as dit, au quartier de la Plaine ?
Maintenant, oui, oui, c'est ça, dans le quartier de la Plaine, au Danguin plutôt maintenant.
D'accord, donc pas très loin non plus du studio d'ici, des RVR, mais aussi de notre studio de danse, parce que l'un comme l'autre se trouve en fait dans le quartier de la Plaine. En fait, on est dans ton secteur, Aïdar, là.
Pas le mien, non, mais celui de tout le monde, là où on est tous, oui, c'est un peu ce qui nous a tous rassemblés vers la fin de l'histoire du hip-hop à Tarare, j'ai envie de dire, ça s'est presque terminé à la Plaine. On ne peut pas dire qu'on l'a enterré, mais ça, la grosse histoire s'est terminée à la Chapelle de la Plaine.
Elle s'est conclue
ici. À la MJC.
À la MJC. Mmh. Et alors, comme Lanly, tu n'as pas fait du hip-hop ta profession, mais une culture en soi qui t'a beaucoup apporté à travers ton propre développement personnel.
Exactement.
Ben, nous aurons l'occasion donc d'entendre d'ailleurs à ce propos dans les extraits audio que j'ai sélectionnés. Et aujourd'hui, tu transmets cette passion, toi aussi, je pense, à ton fils, non ?
On a essayé dans le garage. Ils aiment beaucoup. Mais par faute de moyens et de temps, ils n'ont pas trop accroché parce qu'il faut savoir aussi que le hip-hop, ça prend beaucoup, beaucoup de temps. Il faut avoir un espace qui va avec. Et à Tarare, on n'a pas été aidés.
Ah bon, on pourra revenir dessus.
Ouais.
Est-ce que j'ai des choses à rajouter sur ta présentation, Aïdar ?
Oh non, on a peut-être fait le tour, je crois.
On a fait le tour. Mais ça, je n'ai pas demandé vos métiers. Ton métier, Aïdar.
Moi, je suis mineur maintenant.
Tu es mineur ?
Je fais des souterrains, je fais des galeries.
Et toi, Lanly ?
Moi, je suis technicien mesure à la CNR. Donc, c'est la Compagnie Nationale du Rhône.
D'accord.
Donc, producteur 100% renouvelable en électricité.
Il y a donc une histoire commune qui vous relie, qui nous relie. C'est d'abord celle liée à l'histoire de l'immigration, de nos parents respectifs. Une histoire coloniale, celle de la France et de ses conflits. Guerre d'Indochine, d'Algérie, du Cameroun aussi. Et puis il y a celle qui nous relie à une culture alternative, le hip-hop. Et pour vous deux, c'est celle particulière de Tarare. Autrefois, il existait un lieu qui vous réunissait, ainsi que d'autres danseurs de Tarare, mais pas seulement. Ce lieu est celui du kiosque du Parc Bonnet, situé au centre-ville. Il constitue une trace mémoire pour les habitants de ce quartier, mais aussi pour vous. Une trace mémoire que nous avons tenté de réhabiliter il y a 4 ans avec toi, Aïdar, et d'autres danseurs à travers la réalisation de ce court-métrage de 20 minutes. Eh bien, nous allons échanger. Nous allons échanger autour de cette mémoire commune et interagir autour de quelques extraits audio de ce court-métrage que j'ai sélectionné pour cette belle occasion. Et effectivement, Lanly, tu vas être la parole ajoutée, le témoignage complémentaire de ce court-métrage. On écoute un premier extrait dont les protagonistes sont Sophie Richaud, ma collaboratrice, ainsi que celle des différents anciens danseurs hip-hop, j'ai nommé Kader Benabel, Khalil et Tarek Benabel, Amine Lamri, ainsi que Malik Aïssa Mamoun. On écoute.
Oui, je vais vous montrer où sont rangées les archives. Donc suite donc voilà au projet qu'on allait poser pour les quartiers d'été pour les animations cet été dans Tarare. Donc du coup j'ai fait appel à vous pour une recherche de documents sur les kiosques en particulier et toutes les animations qui étaient liées au hip-hop, à la mémoire du hip-hop, à la mémoire de ces lieux qui étaient utilisés par les jeunes de 80 à 2000. Et donc du coup là on va découvrir les photos. C'est sur les kiosques.
Oui, voilà. Alors, sur les travaux. Dans le classeur donc de la photothèque du service communication, vous aviez effectivement repéré des vues des travaux dans les différents parcs où on voyait l'installation des kiosques. Mmh. Voilà, il y avait le parc Bonnet.
Voilà, ce fameux parc Bonnet, puisque du coup. Pour nous, le parc Bonnet, il nous intéressait bien parce que c'est un des kiosques qui a été énormément utilisé par les jeunes qui ont fait du hip-hop, en fait.
Là, effectivement, vous avez
il y a plein de photos, c'est génial.
Voilà, du kiosque
quand il a été mis en place.
Avant.
Du coup, on en est arrivé au jour où... Le jour J, on va appeler ça le jour J.
Ouais, ouais.
J'arrive ici avec Thomas au kiosque. Je crois que j'avais 14 ans, comme ça, on commençait à danser. Voilà, on s'entraînait là-bas régulièrement, on se voyait avec Thomas. Et en même temps, c'était un lieu d'échange. Bon, c'était un ami de longue date. Hein. Thomas, c'est un ami de longue date. Du coup, on se rejoint là-bas. C'était une manière de se défouler, de s'amuser et d'évoluer, de grandir aussi, de se dire, voilà, je vais m'exercer, je vais progresser et je vais atteindre un but, de se fixer des objectifs. Surtout quand tu es à cet âge-là d'adolescence où, franchement, t'as pas vraiment d'objectif, en fait.
Comme je vous disais, voilà, j'étais un peu timide moi avant de connaître la danse.
Ouais.
Donc me montrer devant des gens, surtout des inconnus, parce que voilà, au kiosque on dansait souvent, il y avait des familles, des jeunes qui nous regardaient, donc on était toujours sous le regard des gens. Et ça nous mettait cette petite pression de... Bah, en fait, on est en spectacle. Ouais. Les gens ils viennent et on regarde, wow, du coup on a plus envie de faire des choses spectaculaires, impressionner le monde. Mais en même temps, on s'impressionne nous-mêmes parce que, waouh, mais en fait j'étais capable de ça moi.
De faire ça.
Mais sans vous, je l'aurais peut-être jamais fait.
À la base, c'est que t'arrives, tu connais rien.
Ouais.
On t'apprend, et toi, ton rôle, en fait, indirectement, c'est de le transmettre. Parce que sinon, ça disparaît.
Ça reste quand même un art, et grâce à ça, en fait, on apprend le respect d'une discipline qu'on ne connaît pas. Quand on va assister à un battle, ou même un battle ou à un groupe qui s'entraîne en se disant bon, « on va rencontrer tel groupe, on va aller à la rencontre de ci ou ça, ou se créer quelque chose », on apprend, on voit des gens qui sont différents. Et puis on apprend à accepter la différence des autres.
Alors avant de rebondir sur cet extrait audio, je voudrais juste apporter une correction sur le nom de Kader, de Khalil et de Tarek. Il s'agit de la famille Benadel et non Benabel, comme je l'ai prononcé tout à l'heure, et je m'en excuse. Alors progresser, on entend dans cette archive audio, on entend progresser, atteindre un but, se mettre en spectacle, transmettre, respecter la différence. Autant de mots qui vous ont animé et posé aussi certaines valeurs. Et puis il y a un nom qui ressort, c'est celui de Thomas aussi. Qui a envie de commencer un peu à réagir?
Thomas, on le connaît parce qu'il faisait partie des petits.
Ouais. Ah.
Donc,
après, il faisait partie des petits. Parce que qui étaient les grands en fait?
C'est ce que j'allais dire. Les pionniers voilà. À Tarare.
Allez, revenons à la base, voilà.
C'est ça. La base, de ce que je m'en souviens, c'était plutôt Noël, Michel et Kaby. Bon, après, il y a eu des tentatives. À l'époque où ça n'avait pas accroché, c'était un jeune qui s'appelait Jamel Ouldebachien. Qui était un peu plus grand quand même. Bon, c'était plutôt du fun comme ça lors de petites soirées, machin. Mais eux, Michel Kaby, c'était vraiment beaucoup plus sérieux. C'était organisé, il y avait des jours. Ils avaient établi un programme pendant la semaine, ce qui n'existait pas avant, tu vois. Et ils s'étaient appropriés, ils s'étaient donné un petit bout de terrain. À la base, c'était même à La Plata, quand ils avaient cassé la MJC de La Plata. Ils avaient trouvé un sol lisse, si je m'en rappelle. C'était un peu comme ça qu'ils m'avaient expliqué. Et puis ils avaient commencé à s'entraîner là-bas et progresser. Puis petit à petit, en ayant créé des figures spectaculaires, ils se sont fait un petit peu... on a entendu parler d'eux à Tarare. Voilà.
C'est pas la génération de Kader Benadel, justement?
Non, non. Non. C'est ceux de 81 et Noël, il doit être de 79, 78, quelque
D'accord,
chose comme
ouais,
ça.
C'est vraiment, on est dans les premières heures, là.
À peu près, ouais, c'est ça. Michel, il est 81 et je crois que Kaby doit être de 82 ou 83.
Donc comment se situe là. Tu es de quelle génération? Tu es la première, deuxième génération, Haïdar?
Moi, je pense qu'on peut parler de, je sais pas, en génération, mais c'est plutôt, parce qu'une génération, si on prend le terme à la lettre, c'est 33 ans, mais,
ouais, mais, dans...
mais on va dire la deuxième vague.
La deuxième vague. Donc
la deuxième vague.
Souvent, c'est souvent c'est en fonction des décennies, en fait.
Oui.
Génération 80, 90,
on va dire ça.
2000.
Alors, si on parle en décennies, ouais, bon, moi, je parle plutôt en vague, c'est ceux de 80, on va dire, nous, moi, j'ai dû commencer à les rejoindre. Alors, bon, les rejoindre, je me suis un petit peu imposé, mais c'était en 95, par là, un truc comme ça, 95.
95.
Donc, on peut parler de seconde génération, ouais. Parce que celle qui a voulu s'exprimer dans les années 70, déjà, je pense que le mouvement hip-hop, il est arrivé, comme tu as dit, avec HIP et HOP, HOP plutôt.
Ah, c'est bien chauffé aussi, ouais.
C'était avec le pouvoir médiatique.
Ouais, aussi.
Donc, du coup, et donc, ouais, les années 80, et puis après, en 90-95, il y a un second mouvement, et puis
oui,
après 2000.
Tout à fait.
2000, c'est le mix de tout ça, quoi.
Donc, deuxième génération, tu es dans la transition. Et toi, Lanly ? Tu te situes où dans ces générations-là?
Ben moi, j'ai pas pu connaître la 70. J'étais trop jeune. Moi, je suis arrivé quasiment presque en même temps que Haïdar.
Que Haïdar.
Parce qu'en fait, moi, dans la communauté, mm-hmm, en fait, Michel, Kaby et Noël de tout à l'heure, ils appartiennent à ma... Enfin, on est de la même communauté Hmong.
Mm-hmm.
Et nous, dans notre communauté, on se voyait.
Ah, ils sont
tous
aussi
les week-ends
de la communauté Hmong également.
Donc on se voyait, on se parlait, mais eux, c'était des grands pour moi.
C'est des grands, oui.
Et quand et souvent à des repas, à des soirées animées, ben, des fois, ils venaient faire leurs prestations. Et nous, on n'y connaissait rien encore.
Au lieu d'observer, c'est comme
et
ça.
Du coup, c'est comme ça qu'ils sont c'est devenu les grands. Enfin, c'était les grands. Et comment dire, c'était devenu des exemples. On voulait les copier. On voulait faire pareil. Ça nous a motivés. Et moi, j'ai commencé réellement sérieusement à 14 ans. Donc,
ouais, adolescent. Ouais,
voilà, j'avais pas beaucoup d'expérience. En plus de ça, moi, j'ai. En gros, eux, ils étaient basés à La Plata. Là, moi, j'étais à La Plaine, j'étais seul. Donc, eux, ils ont commencé, ils ont progressé. Moi, par la suite, je suis arrivé. J'ai été. Entraîné par de la belle famille.
Mmh.
Ça m'a plu dans les débuts, mais après j'ai arrêté complet parce que je n'y arrivais pas. Et c'est après, vers les 15 ans, je me suis vraiment mis dedans. Parce que j'ai d'autres cousins qui me suivaient, ça m'a motivé. J'avais le mi-club de la plaine où je m'entraînais, qui m'a permis de progresser aussi et de... Et par le biais du mi-club, j'ai aussi dansé avec tous mes copains de quartier. Quoi. Je les ai initiés aussi, j'en ai initié certains aussi.
Tu as été émetteur toi aussi?
Ouais, surtout à La Plaine, parce qu'à La Plaine, on avait personne. J'étais, je pense, le premier à La Plaine à danser, enfin à briquer quoi.
Ouais. As-tu dit à briquer parce que tu t'es surtout orienté dans le breakdance?
Ouais, dans le breakdance. Ouais.
Et toi, Haïdar, tu
parles?
Pareil.
Breakdance, Smurf, enfin voilà.
Smurf, parce que tu parles de Smurf. Du debout aussi.
Oh ouais.
Un petit peu du debout, mais surtout du sol. En fait, vous êtes des frères de sol, comme on dit.
C'est ça.
Voilà. C'est un peu là.
C'était votre Smurfer.
C'était votre Smurfer. Ah, ben oui, parce que j'ai bien compris qu'il était très influencé par cette première vague, en fait, cette première génération, oui. Mais vous avez les mêmes références en même temps.
Oui.
Hein, vous avez la même référence, et puis des noms, vous mettez des noms sur des visages qui sont des références et qui sont, ben voilà, à l'origine des premières heures de la danse hip-hop ici à Tarare. Et qui vous a aussi, dont vous êtes aussi inspiré. Mais alors, ce lieu, le kiosque, tu étais aussi, Lanly.
On y était tous.
Vous étiez tous. Vous étiez, toi aussi, Haïdar.
Oui.
Il parle de transmission à ce moment-là. C'est vachement intéressant. Il y a Amine qui parle de transmission. C'est important parce que c'est là aussi, ça fait partie de l'ADN aussi du hip-hop. Transmission des plus vieux aux plus jeunes. C'était ça. Tu parles aussi, Haïdar, de ce qui est important aussi, de respect de différence quand tu découvres aussi cet art.
Mmh. Complètement. Parce qu'il y a plusieurs visages. Plusieurs origines, et puis là on se dit, en fait on est en France, et on apprend à aimer la France de cette manière en fait, et on se dit on peut exister comme ça, et on se trouve une place grâce à ça, et une identité.
Et c'est aussi le fait de la culture, ce que tu dis, tellement important, tellement besoin de le dire, et pas uniquement par des professionnels, mais justement des passionnés de culture, et notamment hip-hop, de danse. C'est tellement important. Ben, ces lieux-là, en fait, ce lieu, le kiosque, finalement, c'était un peu cette grande maison, en fait, de la danse, à Tarare. Et puis, intercommunautaire, j'ai envie de dire, presque.
C'était notre salle de réunion. Et je peux dire que c'était l'île de la Réunion. C'était ça, c'était notre coin, nous.
C'était l'espace de Réunion, pour pas dire l'île de la Réunion. Ouais, c'est beau, c'est joliment dit, ça.
C'était notre lieu de rencontre, on s'est connus, on a évolué, il y avait tout le monde, plein de visages, tout.
Non seulement c'était ça, lieu de rencontre et de réunion, mais le plus important, je ne sais pas si vous le voyez, prenez l'exemple d'aujourd'hui, des city-stades. Bah, c'était notre city-stade. Il était ouvert tous les jours. Il n'y avait pas besoin de clé pour l'ouvrir. On y allait.
Accessible à tous.
Voilà, c'est comme si on avait jeté un coup de ballon, mais sauf que nous, on breakait.
C'était la liberté.
On était libre.
Vous étiez vraiment dans la culture.
On pouvait venir à toutes les heures.
Oui, on avait des heures. Je me souviens, des fois, on n'avait rien à faire à 1h du matin. On se retrouvait là-bas.
Vraiment le lieu de ralliement.
Ah, complètement.
Et les habitants, comment ils recevaient finalement ce rendez-vous, cette réunion? Comment elle accueillait cette dynamique, cette réunion entre vous? Est-ce que
l'accueillait bien? C'était appréciable, parce qu'il y avait des gens qui attendaient que ça, parce que bon, on avait un fond de musique. Mm-hmm. Pour certains, j'ai envie de dire, qui étaient là juste pour fumer une cigarette ou boire un petit coup, donc ils s'asseyaient, donc ils étaient spectateurs. Et puis, il y avait d'autres, quand on était en plein après-midi, il y avait des enfants qui venaient nous rejoindre quelquefois, essayer pour rigoler, et puis s'en allaient. C'était magique. C'était magique. Il y avait une magie là-dedans, ça attirait tout le monde. Ça plaisait à tout le monde. Hormis une plainte ou deux où on avait mis un petit peu le son un peu trop fort, ça se réglait très rapidement parce qu'on savait qu'il fallait respecter le voisinage. Puis, arrivé à des heures, comme on disait, 1h du matin, on venait sans musique. Donc, en général, nous, on n'a pas eu de soucis. C'est peut-être un peu après qu'il y a eu du souci, mais on n'a jamais eu de soucis, nous, pas que je sache.
Est-ce qu'il y avait aussi des personnes aussi, des danseurs, des b-boys, qui venaient un peu, qui étaient extérieurs aussi de Tarare, qui venaient vous rejoindre sous ce kiosque?
On a déjà fait des rencontres, ouais, c'était sympa.
Et des compètes aussi, des défis, parce qu'à l'époque, on appelait ça encore des défis, enfin, votre génération peut-être plus, des battles.
Oui, je me souviens.
Et il y en a eu là sous ce kiosque?
Oui, ça venait de Vénitieux.
De Vénitieux?
Ouais.
Non.
Oui, des jeunes, de Vénitieux.
C'est pas vrai.
Si, complètement. Leur nom, je m'en rappelle plus. Ouais.
Pokémon.
Je sais. Non, c'était pas encore des gars des Pokémon.
Je suis pas sûr qu'ils étaient encore. Le groupe était.
Ils n'étaient pas encore fondés. Les Pokémon.
De Vénitieux.
Je crois qu'ils ont dû fonder en 99, 98.
Oui, on est à la fin des années 90, en tout cas, je crois.
Voilà. Parce que oui, alors je crois qu'ils ont été champions du monde en 2001, 2002.
Ah oui, des grands compétiteurs, oui. Voilà. Et puis des challengers.
Alors, des gens de Rouen, on a fait un spectacle aussi, même une rencontre avec qui on a échangé pour faire un spectacle avec Cut Killer à l'époque.
Cut Killer, ouais, DJ Cut Killer. Ouais.
À l'époque, ouais. C'était à Vichy, si je m'en souviens. Ouais. J'étais parti avec Michel et Noël et tout ça, quoi.
D'accord.
Pour les accompagner, tout ça.
Donc lieu de défi aussi.
Voilà.
Et comme on le sait, le défi, c'est-à-dire la culture du défi dans le hip-hop, et comme on le sait, qui n'est pas uniquement une façon d'écraser l'autre, de même s'il y a des termes qu'on parle, on va le fumer, tout, etc., ce sont des expressions, mais qu'il s'agit surtout de pouvoir se construire aussi avec l'autre, enfin avec l'autre dans la confrontation, eh bien, de s'aider l'un comme les autres, mutuellement, à se dépasser, à se construire. On va faire une petite pause, si vous voulez bien, avec un son de ton choix, Lanly. Et bien, ce son-là, justement, il est des années 80. C'est Breakdance, Electric Boogie, de Jerry Lordan. You say you're one for the trouble, two for the time. Oh, come on, y'all, let's break. Cut it, you know. I'm going home. Vous êtes toujours à l'écoute de RVR Radio à la bonne heure, conversation avec le hip-hop en compagnie de Lanli Tao et de Aïda Lacéphare.
Donc en fait, en 2006, c'est avant travaux, donc c'est quand il était, 2005, c'est avant travaux, donc c'est-à-dire qu'ils ont pris les photos de l'espace avec le kiosque. Et oui, il y avait les gradins et tout.
Oui, ils étaient tout super prévus pour, voilà, pour assister.
Il était super ce kiosque.
Oui.
Et parce que du coup, les familles se mettaient là et tout, génial. Et on voit que, oui, qu'ils étaient vraiment au cœur de la ville, mais qu'à la fois, ils étaient quand même un peu excentrés parce qu'il y a les arbres, etc. Mm-hmm. Et puis qu'il y a les gradins autour, donc ils peuvent se poser, les parents peuvent se poser. C'est sympa.
Il a été démoli les 15 et 16... Non, cette démolition, 15 et 16 février 2011. Vous devez avoir un dossier 2011, non ?
Et surtout, en fait, ce qui a marqué cette fracture, c'est vrai qu'il est vraiment important de le souligner même, c'était la destruction du kiosque qui était le cœur même, en fait le fief des b-boys de Tarare. Et un beau jour, en fait, on s'aperçoit que on a décidé d'abroger le droit de danser et de détruire le kiosque sans avertir, tu vois, les personnes justement qui l'usaient. Et là, c'est un choc, en fait, c'est un choc. Pas un choc émotionnel, hein, on va pas aller bien loin, mais c'est un choc. On se dit, attends, t'es, on en a parlé pendant longtemps, il est où le kiosque ? Ils nous ont pas demandé, ils nous en ont proposé. Et c'est de savoir, en fait, quelle considération la ville avait pour nous, en fait. Se dire, on n'existait pas. On n'existait pas, il n'y avait personne. Mais on faisait partie de ce paysage, paysage. Et il faut savoir qu'après, quand t'as plus de lieu de rendez-vous, t'as plus de lieu de danse, il n'y a plus de groupe. Et le groupe, là, il se fragmente, il se dissout. Ouais. Chacun commence à un peu abandonner. Plus de motivation, plus rien. Et comme je te disais, ce que je veux répéter, c'est que on était nos propres miroirs. Mmh. On était nos propres miroirs, on se regardait, on se parlait, etc. Donc le fait d'être en groupe nous incitait à venir nous entraîner concrètement. Mmh. C'était, on va dire, une influence collective.
Ouais, bien sûr.
Et à la fin, on s'est retrouvés sans rien.
Du coup, ça a créé vraiment... Il y a eu une chute. Le groupe, déjà, il s'est dissous. Il y en a qui sont partis, il y en a qui ont arrêté. D'autres qui ne venaient pas forcément de Tarare, ils n'avaient plus de raison de venir à Tarare, parce qu'il n'y a plus le kiosque. Il faut dire ce qu'il y a. Et ça a été très, très dur de garder la motivation, de vouloir continuer. On a essayé de gratter des salles à droite, à gauche. C'était un peu compliqué. Et une fois...
Quand tu disais gratter des salles de droite, à gauche, c'est un peu compliqué. Pourquoi c'était compliqué ?
Compliqué dans le sens, déjà, on était tous mineurs, il n'y avait pas de majeurs. Donc déjà, ça nous parlait de créer une association. Junior Association, à l'époque, ça s'appelait Junior Association. On a réussi, donc on a fait la Junior Association, on nous a prêté une salle, et en contrepartie, on nous demandait de faire quelques représentations par-ci, par-là. Ça ne nous dérangeait pas, parce que nous, vraiment, ce qu'on voulait, c'était une salle, au final. Puis après, voilà, on a fait, c'est vrai, une ou deux représentations. On s'est dit, en fait, pourquoi pas ? C'est vrai qu'on a pu se montrer ici, se montrer là-bas. Ça a fait découvrir aussi à d'autres personnes. Et au final, on s'est dirigé, on a fini à Villefranche. Villefranche, on a découvert une salle, il y avait une chorégraphe. Et du coup, on s'est lancé dans une autre histoire, en fait.
On se dirige vers une autre histoire, en fait. Une page se tourne. Et là, c'est à nouveau une page blanche qu'il faut écrire. Il s'en est dit des choses, là, hein, Lanli, Aïda. Il s'en est dit beaucoup de choses, hein, sur la destruction de ce kiosque qui a cassé tout un élan, invisibilisé quand même en même temps cette présence, en tout cas, de cette jeunesse taharienne et vecteur en même temps de diversité, parce que issue de communautés différentes, mais qui sont reliés aussi par une culture de rue qu'on appelle le hip-hop. Donc vous étiez en train de construire quelque chose de plutôt positif, une présence positive qui gênait finalement personne. Et puis, in fine, pas vraiment de, si j'ai bien compris, vous me le dites, hein, pas vraiment de proposition, de... Oui, enfin, tout c'est un peu volatilisé, question Aïdar.
Exact. On a, il le dit clairement, on n'a pas été considéré. Il n'y a eu aucune alternative à ça, sachant qu'ils savaient que ça regroupait quand même un petit peu de monde. Ouais. Hein. Ça permettait d'avoir une animation gratuite pour les habitants du coin et les passants.
Belle
tout ça.
Oui.
Exact. Ça pouvait permettre aussi de donner l'envie à certains enfants de pouvoir vouloir en faire plus tard, faire une activité sportive et une activité artistique de plus, de surcroît ouais. en plus. Mais non, derrière, ils ont choisi de détruire ça parce qu'il n'y avait aucun intérêt pour eux, aucun intérêt, alors que en soi, ça faisait vivre le centre-ville de Tarare, quelque part.
Oui, on ne vous a pas donné de raison pour laquelle on démolissait finalement le kiosque. Raison, je ne sais pas, est-ce que finalement il était, il s'était fragilisé dans le temps, que bah, il ne respectait plus les normes de sécurité, en tout cas c'était pas sécure pour vous ou autre, ou bien où ça crée bah, du conflit, du désordre, etc. Rien.
Non, aucun argument. Aucun argument.
Du jour au lendemain.
Non, je pense que l'idée c'était vraiment de dissoudre les... Parce que ça faisait quand même un rassemblement quelquefois où ça amenait pas mal de monde, mais c'était du monde qui venait de la diversité. Ça, y avait tous les visages. C'était des gens du centre-ville qui s'asseyaient, se promenaient avec leurs gamins. Mais derrière, non, c'est vrai que ça a tué le hip-hop à Tarare.
Et ça a tué le hip-hop.
Et il y avait des sacrées graines, comme on a l'Anli. Il y avait des compétences physiques qui étaient carrément... Il aurait pu avoir quand même une belle histoire. Bon, il a... On ne lui a pas donné les moyens. J'ai envie de penser à Thomas, Michel, Thomas. Tout ça, qui aurait pu faire, peut-être pas carrière, mais au moins avoir une renommée et mettre Tarare en avant. Mais ils ont choisi ça, ils ont choisi de détruire sans consulter personne. Et pourtant, quand je repense à Michel, il avait une renommée carrément même nationale. Il y avait dans des villes où on parlait de lui, il maîtrisait certaines phases que d'autres personnes ne maîtrisaient pas.
Il y avait du talent.
Oui, en parlant de Kaby et tout ça, quoi.
Et toi, alors, lis un petit peu ton sentiment, un petit peu de cette situation.
Je l'ai appris bien assez tard, ouais. La destruction. Parce que j'ai, moi, personnellement, à 18 ans, 20 ans, je suis parti me marier. Et du coup, j'ai dû quitter... j'ai vécu peut-être 6 mois à Tarare, avec ma femme et mon fils. Après, je suis parti dans le sud.
D'accord.
Et j'ai vécu à Nîmes. Et 2011, moi ça me parle parce que c'est l'année où je suis revenu. Enfin, je suis revenu bien assez avant, mais moi, franchement, ça, le jour où je l'ai appris, ça m'a fait un choc. Hein.
Voilà. Enfin,
quand je suis revenu à Tarare, on me dit ah, t'as entendu le kiosque, il n'y a plus de kiosque. Ah, ça m'a
bouleversé.
Ah ouais. Ah ouais. Du coup, parce que c'était le repère.
J'y suis allé directement. J'ai vu la toile d'araignée, j'ai fait oh non.
T'es allé. Te recueillir.
Ah, franchement, non. Juste avec ma femme, j'ai pleuré et tout.
Ah, oui, ça t'a ému quand même.
Ça t'a touché.
Ça t'a touché. C'est votre mémoire, c'est votre histoire.
C'est ça, on nous a enlevé une partie de nous, en fait.
Exactement.
C'est ce qu'ils savent pas, en fait. On nous a enlevé une partie de nous.
C'est terrible.
C'est terrible ce que tu dis. Je crois qu'on ne prend pas la mesure, souvent, dans des décisions comme ça politiques, de la part des élus. On ne prend pas suffisamment la mesure un peu des conséquences, de l'impact que ça peut avoir sur la population, sur ceux qui, notamment, occupent ces lieux, le font vivre, et de manière positive, créent du lien social, notamment. Je crois qu'on ne se rend pas compte. Que c'est pas parce qu'il y a... Comme tu l'as dit, très bien dit en plus, Haïdar, c'est un lieu, c'est une maison à ciel ouvert. C'est la maison de tous. Ça, c'est chouette. Il n'y a pas de mur. Il n'y a pas de mur. Non, il y avait un kiosque qui était là, qui symbolisait finalement ce lieu de rendez-vous, et puis voilà, dans la rue. Mais je comprends complètement que tu sois aussi bouleversé, ému, ainsi que toi, Haïdar. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, y a-t-il un lieu, comme tu dis, apparemment, Haïdar, ça a tué en même temps la vie du hip-hop, mais de ce hip-hop de la rue, ici à Tarare, parce qu'il n'y a pas vraiment de lieu qui soit assez représenté, en tout cas, qui est destiné, consacré en tout cas à la pratique de la danse hip-hop ici à Tarare, en tout cas spécifiquement à la danse hip-hop, même s'il y a des écoles, en tout cas moi je donne des cours, j'ai un lieu, ma compagnie de danse et un lieu, mon studio où je donne des cours de danse notamment de hip-hop, d'initiation hip-hop, mais pas que seulement hip-hop, mais c'est vrai qu'il n'y a pas de lieu effectivement qui est consacré à cette culture, parce que quand on dit culture, ce n'est pas que la danse, c'est aussi le rap, c'est le graphe. C'est la musique, le DJing, c'est tout ça, quoi.
C'est ça.
Tout ce qui fait lien,
c'est
quoi.
C'est un univers.
Ah oui.
pour un univers. Et tu disais aussi très bien, Haïdar, la référence pour d'autres jeunes. On a besoin de références. Et à ce propos-là, il y a Khalil dans le court-métrage qui nous parle de références. Ça serait intéressant de l'entendre. Il fait ce lien avec justement cette culture afro-américaine. On va l'écouter, référence.
On a besoin de prendre une référence, d'avoir quelque chose sur lequel on peut se référer, une culture, une image, un grand frère, un parent. Et tout ça, je pense que quand le hip-hop il est venu, il nous a montré à travers la télé, surtout la télé qui était le seul moyen de véhiculer quelque chose, de pouvoir voir autre chose à travers à des milliers de kilomètres. C'est-à-dire la culture afro-américaine, on voyait comme je disais tout à l'heure, des afro-américains qui réussissent, des afro-américains qui s'expriment, qui s'épanouissent, qui ont réellement une identité propre, qui sont émancipés, exactement, l'émancipation à travers la danse, à travers cette culture. C'est-à-dire là, oui, on a quelque chose, c'est à nous.
C'est intéressant de l'entendre, Khalil, et puis ça résonne un peu avec aussi certains de vos propos, les gens qui réussissent. Alors, j'imagine qu'il ne parle pas simplement de réussir professionnellement, pour lui c'est dans la construction aussi qu'on voit une personne se construire, dans sa construction, son développement personnel, dans son émancipation. Je crois que c'est ça aussi, hein. C'est pas uniquement il en vit, il gagne de l'argent avec, non, bien dans ses bottes, équilibré, et en plus elle génère de la lumière qu'elle partage aux autres. Ça, c'est tellement important, parce que ce qu'il dit Khalil et qui est complètement en résonance. Vraiment, ce que tu disais quand tu faisais même allusion à Lanly, Lanly, c'est quelqu'un qui était en plein envol, on était tous en même temps en admiration de le voir aussi prendre cet envol-là. Et on aurait aimé, effectivement, que ça continue encore sous nos yeux. Voilà. Ça n'a pas empêché qu'il s'arrête.
J'ai dû arrêter, quoi.
Ouais.
Souci de santé, malheureusement.
Est-ce qu'il y a des choses encore par rapport à cet événement tragique en même temps, oui, ça fait penser, tu sais quoi, Haïdar, parce qu'on parle comme ça, on est en conversation, moi ça me fait penser exactement à ce qui s'est passé aussi à Lyon avec le Parvis l'Opéra de Lyon.
Oui.
Pendant 40 ans finalement, parce que nous on a commencé à y mettre les pieds en 83-84, donc la ville de Lyon et l'Opéra a toléré finalement cette jeunesse, finalement, à se retrouver là, lieu symbolique de mémoire, de rencontre, d'échange, d'éclat, de défi, et puis tout d'un coup une décision, paf, du jour au lendemain, on n'est plus la bienvenue.
Ouais, c'est
décampé.
On l'a senti comme ça.
Décampé
aussi.
À Lyon. Décampé. On va laisser la place à un petit entre-soi un peu social. On va y mettre un petit peu des tables comme ceci sur et puis on va mettre un peu de jazz, pour un peu cette une espèce de gentrification en fait. Voilà.
C'est ça.
Aussi. Et c'est vrai que c'est paradoxal parce qu'en même temps, cette culture hip-hop, elle existe pourtant maintenant bel et bien et on peut plus s'en passer en tout cas dans la culture. On parle même de cultures urbaines, de danse urbaine. C'est assez paradoxal. Assez paradoxal, c'est-à-dire qu'on l'a complètement intégré, en tout cas, dans le paysage culturel, français, urbain, et en même temps, il y a des décisions qui se prennent. Alors là, nous sommes la démolition de ces 2011, c'est récent quand même, c'est il y a 10 ans. Moi, je parle donc de... En 2011, le hip-hop déjà fait bien parler de lui. Il fait déjà bien parler de lui. Nous ne sommes pas au balbutiement. Nous sommes déjà... il a acquis quand même déjà bien des heures de vol, quoi. Et d'enracinement dans notre société. Et bon, pour parler que de l'opéra, c'est récent aussi. Donc c'est intéressant. C'est paradoxe comme ceci. Et oui, on ne se rend pas compte, en tout cas, de ce que ça peut représenter pour bien des jeunes. On va écouter, enfin, le dernier extrait, c'est Kader. Kader qui nous parle de revendication, il nous parle d'existence aussi. On va l'écouter.
Tout ça, c'est des modes d'expression qui font du bien. Moi, je pense que ça m'a fait du bien. Les jeunes qui arrivent à s'exprimer à travers l'art, c'est une chance. Ça aurait évité, si tout le monde aurait eu cette chance-là, ça aurait certainement évité pour certains de sombrer dans autre chose. Après, c'est vrai que cette danse-là, quelque part, c'est pour moi une revendication, que je, bon, on avait à cet âge-là besoin de nous exprimer, peut-être qu'on ne se sentait pas entendu,
ouais.
On ne trouvait pas notre place quelque part, peut-être, en, voilà. Et puis pour nous, à travers l'art, on avait trouvé le moyen de nous exprimer, d'être vu, d'exister, de pouvoir nous exprimer corporellement. Peut-être que verbalement, on n'était pas assez entendu, mal compris. Nous, on n'aurait pas souhaité que justement ce besoin de nous exprimer perdure dans le temps.
Et voilà, l'échange, en fait, l'échange intergénérationnel était intéressant à ce moment-là, parce qu'il y avait toujours ce lieu. Tu vois, le lieu qui nous permettait d'identifier, de se dire, je vais. Peut-être demain, tu vas regarder un match, tu vas au stade. Tu vois, et bah, Tara, tu voulais voir de la danse, t'allais au kiosque.
C'est pour ça qu'en fait, ça, on crée des liens sociaux à travers la danse. Et des fois, comme des fois dans un village comme Tarare, il se passe vraiment jamais rien. Alors les gens, ils se disent, bon, on sait qu'au kiosque, l'ancien kiosque où on pouvait danser avant. Et on se dit, bon, c'est le seul endroit où ça bouge, où il y a quelque chose, on va dire. Il se passe quelque chose pour les jeunes.
C'était vraiment pour moi, le hip-hop, ça faisait partie intégrante de ma culture.
Ouais.
Bien que de base, c'était quelque chose quand même qui venait des États-Unis, d'un sang qui peut-être n'était pas le mien, afro-américain, ouais. Mais ouais. Pour moi, c'était clairement à moi.
Parce qu'on a besoin d'évacuer quelque chose, mm-hmm. un stress ou un mal-être. Mm-hmm. Et si on arrive à être reconnu, entendu et pouvoir exprimer son mal et puis montrer à tout le monde qu'on est normal, non seulement normal comme tout le monde, mais mieux que les autres parce qu'on fait des choses belles. Encore un peu plus. Et voilà.
C'était quelque chose qui avait quand même une énergie positive assez impressionnante. Hein. Et puis qui on pouvait dépasser les frontières de toutes choses. C'était quelque chose d'important. Ça a marqué ma vie dans le bon sens, avec des bonnes influences.
Eh ben, Tara, quand on va voir de la danse, eh ben, on allait pas au théâtre, on allait au kiosque. Il s'est dit là aussi plein de choses. Hein, il s'est dit plein de choses. C'est beau ce qu'il se dit. Lanly, tu veux réagir un peu sur ce qu'on vient d'entendre ?
Non, moi je pense qu'ils ont plus
ils ont tout dit. Hein.
Non, mais c'est beau quand même d'avoir pu faire une émission comme ça et de garder justement du coup garder en mémoire les paroles de tous ces artistes. Hein,
c'est...
Que j'en connais quelques-uns. Et ouais, mes respects à eux. Merci à toi, hein, Fred, surtout à toi, parce que c'est grâce à toi aussi qu'aujourd'hui on a la possibilité de garder en mémoire tout ce qu'on a fait, quoi, par ces enregistrements, justement, et ce podcast. Quoi.
Ben, je te remercie beaucoup, Lanly. Lanly, à ce propos, il se passe quelque chose le samedi 3 mai prochain à Tara.
Oui.
Et plus exactement, la salle des fêtes Joseph Triomphe.
C'est ça.
Là, il y a un événement hip-hop organisé par l'association justement Mong, Ronald, dont tu es aussi à l'initiative, hein, d'accord. Il y a de l'initiation au breakdance, du battle, des exposants, des graffeurs, de la conférence, des concours de rap, des défilés Mong, Fashion Street, des remises de prix. Enfin, il y a tout un programme très riche, qui est superbe, et qui va se clôturer en plus d'une super soirée. Est-ce que tu peux nous en parler un peu de cette initiative qui, je crois, est aussi destinée quand même à révéler aussi les jeunes talents, b-boys, b-girls aussi, de la communauté Hmong de France, et puis aussi ouvert sur l'extérieur.
Déjà, pour me présenter au niveau de l'association, je suis vice-président. J'avais repris après la présidence il y a 2-3 ans, car c'était nos parents qui ont initié cette association en 93, et on voulait vraiment pas la destituer. Un hommage pour nos parents, car c'est notre héritage. C'est un héritage qu'on a repris, que j'ai voulu reprendre et perpétuer. Parce que par le biais de cette association, tous les ans, on peut organiser des fêtes, des nouvel an, par lesquels on peut promouvoir notre culture aux gens, aux futures générations, à la communauté et à d'autres communautés, quoi, pour se faire connaître aussi, surtout. Les Hmong, aujourd'hui, personnellement, un Français sur 10, bon, il y en a deux, peut-être, qui vont connaître les Hmong. C'est pour ça aussi, donc, moi, j'ai voulu reprendre cette association, c'était pour ça, et pour aider notre communauté et se faire connaître, parce que chez nous, depuis que je suis né, je sais qu'on est, qu'il y a des talents, ouais. Que ce soit dans la danse, dans l'hip-hop, dans le chant, dans le rap, dans le foot, dans le sport aussi, dans d'autres activités. Mais cet événement a été spécialement consacré vraiment sur le thème du street and art.
Voilà.
Donc, parce que j'étais b-boy à Tara. Mm-hmm. Ça fait 50 ans que les Hmongs sont en France. Mm-hmm. Je voulais faire un événement comme ça pour montrer comme en 50 ans ce qui est devenu notre communauté. Quels sont nos artistes aujourd'hui qui ont pu réussir? Quels sont leurs parcours? Justement, c'est pour ça que j'ai voulu inviter six savants, l'organisateur. Ça a l'air officiel, car c'est l'un des pionniers Hmong breaker en France.
Puis très réputé, hein, ouais.
Très réputé, qui a fait ses débuts avec B-Vang. Donc c'est pour cela j'ai voulu vraiment faire venir ces grosses pointures pour marquer le coup d'un début d'événement que j'espère qui se perpétuera dans le temps. Ouais, c'est très important même pour moi parce que en plus ça va se dérouler dans ma ville, Tara.
Et oui, c'est le point de départ là aussi.
Il faut se dire aussi que l'hip hop il s'est véhiculé de partout, mais il a aussi véhiculé à Tara. Donc moi aujourd'hui je fais partie d'une association, je veux que ça se passe. Et j'espère que ça se passera bien. J'espère attirer le monde qu'il faut. On est une association plutôt communautaire, mais cet événement, on l'ouvre vraiment à tous parce que l'art, l'hip-hop, tout ça, c'est universel. Donc on est ouvert à tout le monde. C'est pas qu'à notre communauté. Donc comme tu l'as bien dit, donc, dans un premier temps, le matin, pour ceux qui sont intéressés, une initiation breakdance. Mm-hmm. Et perfectionnement, il sera pris en main par notre b-boy Komeng, qui nous vient de Paris. Donc, ce sera de 10h30 à midi et demi.
Ça, c'est l'initiation.
L'initiation breakdance, c'est perfectionnement.
Niveau, les niveaux. Ah oui, alors, public destiné, enfants, adolescents.
Tout niveau.
Même les
tout
adultes.
Niveau, même les adultes.
Très bien.
Donc, moi, je tiens à le préciser, l'entrée, c'est 10€. Après, c'est pour toute la journée, hein, pour tous les événements. Après, à partir de 14h, on va débuter la conférence avec plusieurs intervenants. Ce ne seront pas que des b-boys, hein. Il y a des danseurs, il y aura aussi des sportifs plutôt de haut niveau, Hmong. Et il y aura toi aussi, bien sûr.
Oui, je suis très content d'être invité, oui.
Fred, pointu au hip-hop. S'en suivra par la suite le début des cyphers et des battles. 2v2
pour ceux qui ne savent pas. Alors tu sais que nos auditeurs et auditrices sont pas tous forcément, n'ont pas tous les codes du hip-hop. Donc c'est 2v2.
C'est des équipes de 2, voilà. Contre 2. Ensuite, en parallèle, on aura le concours de dessin graph qui se fera en parallèle du battle.
Super.
Ce qui leur permettra, en fait, parce que ça prend du temps quand même de dessiner, ça leur permettra de finir leur chef-d'œuvre à la fin, durant le battle. Et ensuite, il y aura des remises de prix vers plutôt 20h, à la fin des battles et des cyphers. En même temps, dans les entrailles, il y aura des défilés.
Oui, justement, le défilé fashion.
Il y aura du spectacle, des intervenants, des démonstrations. Donc, très intéressant. Donc, venez
carrément,
nombreux.
Carrément, oui. Carrément. Carrément.
C'est une première à Tarare.
C'est une première, oui.
Ne manquez pas ça. Ensuite, après 20h, le concours de rap, que ce soit Hmong, français, enfin, du rap en parole Hmong ou en parole français. Et on a plutôt privilégié, malheureusement, désolé pour notre communauté. On voulait vraiment, faire venir nos talents Hmong pour les pousser à se montrer et à s'envoler, quoi. On les aidait à s'envoler. Et s'en suivra en finale, dans la soirée, soirée DJ, on a fait venir 3 DJ. Donc DJ Chinou, DJ Yangi et DJ Jisan. Voilà, donc il y aura 3 DJ pour finir la soirée jusqu'à l'aube. Voilà, donc,
jusqu'à l'aube. Jusqu'à l'aube.
Jusqu'à qu'on soit fatigué. Là,
voilà, c'est le marathon. Mais c'est super. Je suis bien content. C'est super, Et je trouve que par rapport à l'histoire, justement, aussi, la communauté Hmong à Tara, je trouve que c'est une très belle initiative. Puisque, c'est une histoire par rapport à une histoire particulière. Et en même temps, qui se lie aussi, parce que comme elle est aussi ouverte aussi aux autres, qui se lie, à d'autres histoires, et ça c'est chouette, et c'est vraiment très très bien. Juste pour pour terminer, avant de terminer, comment on fait si on a envie de s'inscrire, vers où, ben, comment on se retourne vers où, vous avez Instagram, Facebook, c'est les réseaux sociaux?
On a un réseau,
En tout cas, on vous trouve sur Instagram.
Facebook,
sur quel,
Instagram.
Sur quel serait le mot-clé pour aller passer l'association?
Association Mong Rhône-Alpes.
Association, allez-y, Association Mong Rhône-Alpes, inscrivez-vous. Nombreux, nombreux, c'est une première. Le hip-hop, c'est ça aussi. C'est aussi de la fraternité. Donc, allez, faites partager la publication. On compte sur vous. Notre émission est arrivée à sa fin. Merci à Aïda, merci Lanly pour cette conversation autour de la mémoire, de votre mémoire, celle d'une histoire de danse, de vie et de ville. Dans celle-ci, Tara. Je suis sûr que les auditeurs et les auditrices ont découvert plein de choses, et puis peut-être même d'ailleurs vous ont déjà croisé dans cette histoire. N'hésitez pas, chères auditrices et auditeurs, à partager aussi ce podcast afin que circule cette mémoire vive et son récit. Je vous dis à très bientôt, et nous allons terminer avec un morceau de ton choix, un son de ton choix, Aïda, et je le trouve super intéressant. C'est celui de Yann Tiersen, et le titre s'appelle J'y suis jamais allé. À très bientôt, les abrés. Please.